Le troisième derby romand de la saison de Ligue A de hockey sur glace vient de se terminer. Fribourg-Oteron a su imposer son jeu face à Genève-Servette. Le Parti socialiste suisse décide de ne rien décider. Le président du parti, Christian Levrat, laisse au groupe parlementaire le choix des candidats présentés pour la succession de Micheline Calmiret au Conseil fédéral en décembre. Jamais la place Tahrir dans la capitale égyptienne n'avait été aussi noire de monde depuis juillet. Les Égyptiens sont sortis dans les rues aujourd'hui pour réclamer le pouvoir à l'armée. Le temps sera agréable ce week-end. Quelques bancs de brouillard pourront passer sur le plateau. Demain, les thermomètres afficheront entre 6 et 10 degrés. La météo complète à la fin de cette édition. Bonsoir, le troisième derby romand en Ligue nationale A de hockey sur glace est terminé il y a quelques minutes. À la patinoire Saint-Léonard, Fribourg-Oteron a battu les Genevois de Servette 3-0, Bernardin Alemann.
Oui, victoire nette et sans appel aujourd'hui pour Fribourg-Oteron, le leader du championnat qui a prouvé qu'il n'était pas à sa place pour rien. Fribourg-Oteron qui, d'emblée de jeu, a fait la course en tête avec une réussite dès la deuxième minute. Sean Hines, son premier but de la saison, ce but suivi d'un deuxième au quart d'heure de jeu. Alain Birbaum, également défenseur, également son premier but de la saison, 2-0. Et surtout à Genève-Servette, incapable d'endiguer les attaques fribourgeoises. Dans le deuxième tiers-temps, rebelote avec un troisième but signé Pavel Rossa à la 25e minute. Et Genève-Servette, toujours aussi impuissant face à Fribourg-Oteron qui a présenté ce soir un hockey champagne. Et lors du troisième tiers-temps, il y a une réaction genevoise, mais insuffisante. Genève-Servette qui n'a pas réussi à marquer. Score final 3-0 donc pour Fribourg-Oteron.
Et il y avait aussi trois autres matchs en Ligue A ce soir, Pascal Turner.
Oui, dans le derby bernois, Berne s'est imposé à Bienne sur le score de 3-1. Zoug a battu Ambry 4-3 suite à la séance des tirs au but. Et Zurich est allé s'imposer à Rapperswil sur le score de 2-0. Au classement, Fribourg-Oteron reprend 3 points d'avance sur Davos. Et la soirée est assez mauvaise pour Genève-Servette. Certes, Bienne, le 8e, n'est toujours qu'à 5 points, mais avec 2 matchs de moins. Et puis surtout désormais, Zurich, le 7e, est à 12 points, avec 12 points d'avance sur les Genevois.
Sport toujours, mais dans le domaine juridique maintenant. L'attestation bancaire que Boulat Chagaïev a fournie pour prouver sa fortune est un faux. Le ministère public neuchâtelois le confirme ce soir selon de nombreux médias romands. Ce document, soi-disant envoyé par la Bank of America, stipule que le propriétaire de Xamax possède 35 millions de dollars, environ 32 millions de francs sur un compte. Et la banque ne reconnaît pas ce document et la TSR révèle ce soir que des joueurs et entraîneurs de Neuchâtel Xamax ont été sous contrat non seulement avec le club, mais aussi avec une société offshore appartenant au président et propriétaire du club. Et c'est contraire au règlement de la Swiss Football League. L'autre révélation du jour concerne le FC Sion. Le tribunal cantonal valaisan lève les mesures provisionnelles qui permettaient aux 6 recrues estivales du FC Sion de jouer, malgré leur non-qualification. La Ligue estime que les rencontres jouées avec l'un ou l'autre de ces joueurs et qui ont fait l'objet de protêts ou de contestations devraient être perdues par forfait. Le président de Sion estime, lui, que les joueurs ne sont suspendus qu'à partir d'aujourd'hui. Christian Constantin.
La Ligue a demandé, dans son premier point, de révoquer les mesures, dans un deuxième point, un autre élément, et dans un troisième point, subsidiairement, de révoquer les mesures avec effet rétroactif au 3 août 2011. Et ce point-là, la Ligue avait expressément demandé, la juge ne l'a pas retenu dans sa considération finale.
La FIFA interprète cette décision aussi comme pratiquement une décision, une interprétation du fond de l'affaire.
Au niveau du fond de l'affaire, le jugement est au tribunal de district de Martigny. Après, il va aller au tribunal cantonal valaisan. Et après, cas échéant, si une des parties n'est pas d'accord, il va aller au tribunal fédéral. Donc, il y a encore plusieurs tribunaux qui peuvent juger cette affaire, bien évidemment. Et rendez-vous compte les différences qu'on peut avoir dans les tribunaux en fonction d'un juge ou d'un autre. Je pense qu'il est prématuré de dire sur le fond ça sera jugé comme ça.
Des propos recueillis par Patrick Delétro. Le groupe parlementaire socialiste choisira les candidats à la succession de Micheline Calmiret dans une semaine. Ce soir, le comité directeur du PS s'est contenté d'auditionner les prétendants au Conseil fédéral le 14 décembre. La Tessinoise Marina Carobbio et les trois romands Alain Berset, Pierre-Yves Maillard et Stéphane Rossini disposent de quelques jours pour convaincre les derniers indécis. Le président du parti revient sur la variété de leur parcours. Christian Levrat.
Certains ont une très longue expérience législative, d'autres ont été actifs dans la recherche, d'autres encore siègent dans un exécutif. Finalement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas de modèle type de conseiller fédéral et que chacun d'eux, avec l'expérience qui est la leur, peut aspirer à cette fonction et que nous avons confiance qu'il l'exercerait à satisfaction.
Est-ce que le Tessin a une position particulière dans cette course ?
Comme la Suisse romande, c'est une discussion qui va devoir être menée au groupe. Il est clair qu'il y a des intérêts qui ne sont pas forcément convergents.
Christian Levrat avec Romain Clivat. À noter que les quatre candidats se sont engagés à refuser leur élection s'ils ne figuraient pas sur le ticket officiel du PS. Et du côté de l'UDC, la section vaudoise souhaite que Guy Parmelin figure sur le ticket du parti en vue de l'élection au Conseil fédéral. Il est le deuxième candidat officiellement en course après le conseiller aux États chafouzois, Hannes German. Les employés du site de Novartis à Prangin, dans le canton de Vaud, obtiennent en partie gain de cause. Le directeur général Joe Jiménez leur a fait une visite surprise cet après-midi. C'était une de leurs revendications depuis l'annonce des suppressions de postes sur le site près de Nyon. Joe Jiménez s'est déclaré prêt à étudier les propositions pour améliorer la rentabilité de l'usine. Son souhait est de garder le site ouvert. La direction des hôpitaux universitaires de Genève appelle les grévistes à reprendre le travail. Dans un communiqué publié ce soir, elle rappelle qu'elle a pris plusieurs engagements en réponse à leurs revendications, comme l'examen de l'organisation du travail des nettoyeurs. Et la direction souligne que le service minimum vise à assurer la qualité des soins aux patients. Il est fixé par les responsables qui déterminent les collaborateurs requis. Le Grand Conseil valaisan veut proposer aux chambres fédérales de créer une assurance contre les risques de fluctuations monétaires. Ils ont accepté aujourd'hui à la quasi-unanimité une résolution de l'Alliance de gauche qui va dans ce sens. Et cette assurance permettrait de soutenir les secteurs de l'économie suisse qui pâtissent de la cherté du franc. Reste à assurer le financement d'un tel outil basé sur le modèle de l'assurance suisse contre les risques à l'exportation. Marilène Volpi-Fournier, députée verte et membre de l'Alliance de gauche.
La principale source de financement, c'est évidemment l'impôt, mais c'est une solution à beaucoup plus long terme et plus rentable que des plans d'aide comme ça, momentanés ou presque à la façon d'un pompier, lorsqu'on vote 2 milliards ou on fait des propositions de 2 milliards pour le soutien à l'économie suisse. Donc là, le système de l'assurance contre les risques à l'exportation fonctionne comme ça, c'est qu'il y a donc le calcul des primes en fonction des risques qui sont pris par les entreprises. Et puis, s'il n'y a pas finalement de dégâts, eh bien, ça constitue un fonds. Et ce fonds permet d'abaisser les primes et ça fonctionne de cette manière-là.
Des propos recueillis par Olivier Chorderet. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique adopte une résolution contre l'Iran. Elle a été acceptée aujourd'hui par 32 voix contre 2. Et cette résolution exprime une profonde et croissante préoccupation sur le programme nucléaire de Téhéran. Même la Chine et la Russie demandent à l'Iran de s'expliquer sur ses ambitions nucléaires. À Vienne, Lucien Giordani.
Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont voulu lancer un signal clair et demandent à l'Iran de faire rapidement la lumière sur son programme nucléaire. Afin d'obtenir le soutien de la Chine et de la Russie, la résolution ne brandit pas encore la menace du Conseil de sécurité, mais elle donne à l'Iran jusqu'à début mars pour prendre position. D'ici là, le directeur général de l'agence, Yukiya Amano, devra soumettre un nouveau rapport pour évaluer le niveau de coopération de Téhéran. Il a d'ailleurs déjà annoncé la mise en place d'une équipe d'experts. Nous allons envoyer des experts de haut niveau en Iran pour clarifier toutes les questions en suspens. Pour l'instant, l'Iran n'a pas encore accepté, au contraire. Juste avant le vote, Téhéran a annoncé des manœuvres militaires simulant une attaque d'un de ses sites nucléaires. Lucien Giordani, Radio Suisse Romande, Vienne.
Mario Monti annonce aujourd'hui la tenue d'un sommet informel avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel jeudi prochain à Strasbourg en France. Le nouveau Premier ministre italien s'entretiendra avec le président français et la chancelière allemande sur la crise dans la zone euro. Et cet après-midi, Mario Monti a obtenu la confiance de son Parlement par 556 voix contre 61. Hier, il avait reçu le soutien des sénateurs à 281 voix contre 25. Grande journée de mobilisation en Égypte, à Alexandrie et au Caire aujourd'hui. Au moins des dizaines de milliers de manifestants, en majorité islamistes, mais aussi des sympathisants de formations laïques libérales ou de gauche, se sont rassemblés sur la place Tahrir dans la capitale. Ils exigent que l'armée transfère au plus tôt le pouvoir aux civils et ils dénoncent les privilèges accordés aux militaires. Sarah Waghi a 24 ans, elle travaille dans une compagnie de télécommunications.
On doit faire pression sur l'armée parce que l'armée étend la durée de la transition. Ça devait durer 6 mois et cela fait aujourd'hui 8 mois depuis la révolution et rien n'a changé. Donc on est là aujourd'hui pour protester contre l'armée, pour dire que nous avons besoin d'élections le plus tôt possible, que l'élection présidentielle doit avoir lieu en avril et alors on écrira la constitution, comme c'était promis. On a été sous un régime militaire pendant 52 ans. Donc pourquoi le conseil militaire voudrait la démocratie aujourd'hui? Si les gens ne font pas pression pour la démocratie, ça n'arrivera pas. Soyons honnêtes, l'Égypte n'est pas habituée à la démocratie. Nous avons tout à apprendre. Alors, la première étape dans ce cas-là, c'est d'avoir des élections. Et nous, nous nous battons pour ça depuis environ 10 mois. Donc, si nous choisissons notre président en avril, ce sera une bonne chose. On a besoin d'un leader, et ce ne sont pas les militaires qui peuvent être nos leaders.
Propos recueillis par la correspondante de la RSR au Caire, Marion Guénard. La Syrie accepte l'envoi d'une mission d'observation de la Ligue arabe, ou en tout cas, sur le principe, explique un haut responsable du régime de Bachar al-Assad. Mais sur le terrain aujourd'hui, des militants expliquent que les forces de sécurité ont tué 10 de manifestants, dont un enfant. La bourse de New York a fini sans direction claire. Ce soir, le Dow Jones a gagné 0,25%, mais le Nasdaq a cédé 0,59%. La bourse suisse, elle, termine la semaine dans le rouge. Ce soir, à la clôture, l'indice des valeurs vedettes, le SMI, reculait de 0,53% par rapport à la veille, pour s'établir à 5614,61 points. C'est la fin de cette édition. Vous écoutez la radio suisse romande. Tout de suite, la météo. Avec Sébastien Dupéret.
Un temps agréable pour ce week-end et pour la semaine prochaine, c'est ce qu'annonce Météo Suisse. L'anticyclone continuera d'empêcher toute perturbation de traverser le pays. Demain, en début de journée, quelques bandes brouillard se formeront localement, mais ils se dissiperont dans le courant de la matinée. Dans l'après-midi, des voiles d'altitude longeront l'ouest de la Suisse, réduisant parfois l'ensoleillement sur la région genevoise et le long du Jura, mais le temps restera assez ensoleillé. Les températures s'établiront entre moins 4 et moins 1 degré à l'aube. Dans l'après-midi, elles oscilleront entre 6 et 10 degrés. À 2000 mètres, il fera encore 2 degrés. Dimanche, les conditions seront identiques. Le temps restera globalement assez ensoleillé, malgré des bandes brouillard en matinée et des voiles nuageux parfois denses sur l'ouest dans l'après-midi. Les températures afficheront toujours entre 6 et 10 degrés.